Société, religion et charité au XIXe siècle. Colloque international organisé à l'occasion de la béatification de l'abbé Louis-Édouard Sestac 1801-1868 par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et la ville d'Anglette. 15, 16 et 17 octobre 2015 à Notre-Dame du Refuge, Anglette. Réflexion sur l'historiographie du père Sestac, voici l'intervention de Marc Agostino, professeur émérite d'histoire contemporaine de l'Université de Bordeaux-Montaigne. Réflexion sur l'historiographie du père Sestac, Marc Agostino.
Oui, alors une remarque méthodologique, je pense qu'il eût été bon que je parle de l'iconographie, de l'historiographie avant l'iconographie. C'est un petit peu dommage, parce que pour la cohérence du propos, on terminait sur ce magnifique exposé, alors que moi je vais parler d'histoire méthodologique, mais après tout c'est un colloque scientifique, et donc on revient en arrière, mais j'espère ne pas être trop ennuyeux sur un sujet capital. Et j'espère ne pas être trop long, vous me donnez le temps habituel malgré l'heure, bon, merci, et vous pourrez ensuite aller, comme disent les stéréotypes de l'historiographie du XIXe siècle, en parlant des sœurs, en parlant de Sestac. Ils avaient une nourriture simple mais saine. On trouve ça tout le temps. Alors vous pourrez aller prendre ensuite une nourriture simple mais saine. Bon. Et c'est vrai qu'on est très ébloui par cette série de tableaux de Sestac, même si on les a vus dans des livres, c'est pas du tout pareil, surtout avec les commentaires. Alors l'historiographie, pourquoi en avoir parlé ? Parce que je pense que l'historiographie suit la notoriété et la cause de béatification du père Sestac. Il y a des étapes historiographiques. Et cette historiographie présente des problèmes particuliers que je vais essayer de définir. Excusez-moi. Et elle commence, vous le savez, par des témoins. Quelqu'un prend des notes, et lui-même témoin, et elle finit pour le moment par une biographie scientifique, celle d'Yves Chiron, qui n'est pas un point terminal. J'en parlerai très peu, hein, parce que c'est un ouvrage en cours et en vente, et je ne vais pas me mettre à faire de la critique historique qu'on fait dans les revues, vous savez, et qui est un très bon ouvrage, mais probablement on continuera à s'amplifier. Et j'ai regretté, d'ailleurs, que c'était passionnant hier, et très bien lu, et je regrettais qu'il ne soit pas là, parce que c'est vraiment le point actuel de l'historiographie. Et l'histoire du père Sestac a été maintenue chez ceux que cela intéressait dans le diocèse de Bayonne et ailleurs, par 5 livres que tout le monde connaît et que je vais analyser, et qui sont, me semble-t-il, importants. Alors, la base, toute révérence gardée, la source Q, comme dans l'Évangile. Vous savez qu'il y a une source Q, quelle, qui est à l'origine des trois synoptiques, pour Marc peut-être pas, et qui a influencé Jean, mais qu'on ne connaît pas. Alors la source Q, là on la connaît, tout le monde l'a citée, c'est le Bordaran, c'est le Puyol. Le livre du chanoine Puyol, c'est la source Q, mais ça ne donne pas naissance à des évangiles. On ne peut pas dire la vie de Sestac selon Puyol, la vie de Sestac selon Bordarampé, la vie de Sestac selon Chiron. On ne peut pas dire ça parce qu'il y a chaque fois le maintien d'un corpus déjà acquis qui est étendu par des sources nouvelles, mais avec un seul objectif, la béatification, la préparation de la béatification, et c'est ce qui pose problème, pas problème d'ailleurs, ce qui m'a donné l'idée de faire cet exposé. Hein. Bon, donc ça ne pose pas problème du tout. Alors le Bordarampé, je dirais, repose sur des sources extrêmement bien présentées pour un livre de la fin du XIXe siècle, avec les divers éléments que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, la correspondance déjà, l'autobiographie, comme l'appelle Pujol, et les cinq ouvrages ne font qu'augmenter ces sources, et en particulier, j'aurais aimé voir, je ne sais pas si les sœurs possèdent la position pour la béatification, je ne sais pas si la postulatrice adjointe l'a en sa possession, la position que vous avez faite, ce serait très intéressant. Moi, j'ai pas pu la voir. Je n'ai pas pu la voir parce que je me suis probablement mal débrouillé. Hein. J'en avais parlé un peu à M. Boufflet, j'ai pas su me remuer à temps. Mais c'est très difficile. Hein. J'avais eu celle de Madame de Lamourousse, dont parlait Madame Ponté hier, avec beaucoup de difficultés, mais elle n'avait pas abouti. Alors, j'ai choisi cinq ouvrages, qui sont des ouvrages différents que vous avez cités. D'abord, l'abbé Pujol, qui est un ouvrage de 1874, mais je n'ai eu en main que l'édition de 1878. J'avais aussi en main, mais ça par Internet, l'ouvrage de Monsieur de Madone, « Études comparées » de Gary Coates et de Sestac, 1882. Il est dans Gallica. Je l'ai lu, je ne l'ai pas utilisé. Ça n'est pas proprement l'historiographie de Sestac, donc je l'ai laissé tomber. Le chanoine Paul Bordarampé, bien sûr, qui a été cité plusieurs fois, qui laisse un ouvrage tout à fait important. J'ai choisi aussi Gaëtan Bernouville, qui est un peu oublié dans la bibliographie, qui est très important, et qui a consacré en 1951 un ouvrage tout à fait riche chez Grasset. C'était ce qu'on appelle un polygraphe. Il écrivait beaucoup, comme certains actuellement, faisant des biographies. Leur vie à ces polygraphes, c'est de faire des biographies, et souvent d'excellente qualité. Alors Bernouville, je vous dirai tout le bien que j'en pense, en même temps tout le mal, parce qu'il est très littéraire, quoi. Pour vous parler de Sestac, il vous décrit les prés du Pays Basque pendant une heure, et la brume sur la Nive, bon, c'est certes fort intéressant, mais je dirais que ça n'apporte pas grand-chose à la cause, mais c'est un beau livre. Et enfin, vous aviez ce livre-là de celui que j'ai appris être l'aumônier, donc Bétharamite, j'ai demandé hier, des sœurs, et Fanny, Marti Corena, qui avait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, fait un ouvrage aggiornato, mis à jour, un vicaire dans la rue, qui ramasse de manière très nerveuse et très intéressante tout l'apport du père Sestac dans la cité. Petit manuel motivant et interactif et très instructif. Et enfin, évidemment, la belle étude. Vous voulez partir à Saint-Jean-de-Luz ? Allez-y, hein, moi ça ne me vexe pas. Hein. Vous pouvez partir. Hein. Non, parce que monsieur court à Saint-Jean-de-Luz à 14h. Mais si vous voulez, devez y aller, allez-y. Hein. Je ne peux pas être plus. Non, parce que je comprends que vis-à-vis de moi, c'était gênant.
Vous mettez dans la confusion.
Comme vous me l'avez dit très aimablement, au revoir et à bientôt.
Demain,
peut-être. Oui, il a cours, alors ça, c'est quelque chose qui se respecte. Hein. Alors je disais donc, enfin, mais il n'aura pas les questions. Alors je disais donc que ces cinq ouvrages forment ce corpus historiographique et donnent une vision à peu près globale du père Sestac. Alors c'est évidemment, s'agissant d'ouvrages concernant un saint, on se pose toujours la question, historiographie ou hagiographie, ce que j'ai dit dans le résumé. Il est certain que les ouvrages sur ces stacks sont à tendance historiographique, on veut faire de l'histoire, et il n'y a pas de doute que cela donne une foule de renseignements, mais qu'il y a nécessairement une partie hagiographique, c'est-à-dire qu'à certains moments, on exprime des choses qui ne sont pas historiques, et force est de constater que ces ouvrages sont tous suscités par des patronages, que derrière tous ces ouvrages, il y a une commande. Alors cette commande, elle est tout à fait naturelle. Ce sont les sœurs qui souhaitent la béatification de leur fondateur, la mise en valeur de leur charisme. Mais, et bien entendu, l'auteur n'est pas soumis à censure, j'en suis persuadé, mais il va à ce moment-là retenir sa plume, obligatoirement, et c'est le problème de ces vieux ouvrages. Alors, bien entendu, ça ne change rien la qualité de cette historiographie, mais je me devais de faire cette réflexion méthodologique au milieu de ce colloque. Par exemple, le premier ouvrage, celui de Pujol, est évidemment un ouvrage à la fois servante de Marie et diocésain. Servante de Marie parce qu'elles sont toujours là. On l'a dit tout à l'heure, hein, qu'elles sont toujours là, très actives. Comme disait l'abbé Fabas, peut-être quelquefois enfouies, mais tellement efficaces. Et je dirais qu'il y a aussi le diocèse, et en particulier Monseigneur Lacroix, qui aimait beaucoup, alors ça a été dit, Monsieur Sestac. Je parle comme au XIXe siècle, vous voyez. Donc, qui aimait beaucoup Monsieur Sestac. Et Monseigneur Lacroix, qui a fait une homélie d'obsèques extrêmement importante. Et Monseigneur Lacroix a d'ailleurs demandé au chanoine Francis Tegui, qui avait été le confesseur, le pénitent du père Sestac, son approbation. Et le chanoine Francis Tegui, qui est une grande figure du diocèse de Bayonne, avait trouvé ce livre remarquable. C'est un très bon livre, il reste, à mon avis, encore à lire. Et il y a le ton du XIXe siècle, mais c'est un ouvrage de premier ordre. Alors, de même, l'ouvrage du chanoine Bordarampé, qui était lui carrément aumônier de Notre-Dame du Refuge, et qui lui est très encouragé par Mgr Gieur, dont on a vu tout à l'heure le portrait. Mgr Gieur, qui était à l'époque où la cause pouvait remonter, et qui était tout à fait dans l'esprit d'une béatification du père Sestac. C'est un évêque qui a beaucoup marqué le diocèse de Bayonne, c'est un évêque landais, vous savez, les Dacquois et les Bayonnais se passent l'épiscopat comme ça. C'est sûr, le dernier, c'était Mgr Moller, bon, qui est retourné chez lui, ou qui est resté ici. Et il est certain, Mgr Mathieu, mon Dieu, comment oublier Mgr Mathieu? Et il est certain que Mgr Gieur est un évêque de Pidis. C'est un évêque de Pidis, il avait été sacré le 25 février 1907 en la chapelle Sixtine avec 15 autres évêques français par Pidis. C'est un des premiers évêques nommés en dehors du Concordat. Et c'est ce qu'il montre tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il avait écrit à Pidis, il s'en sentait proche, mais il a obtenu peu de choses. En fait, je dirais que le diocèse est accompagné là par les fidèles, par les sœurs, et bien entendu, Mgr Gieur donne une instruction que Chiron relève dans son introduction, il a raison, il dit « Bordarampé est moins objectif que Pujol », dit M. Chiron. Et il a raison, mais il suffisait de lire, il a dû la lire, hein, il suffisait de lire la lettre de Mgr Gieur à Bordarampé, où il lui dit « Je trouve qu'il n'y a pas assez de miracles et d'aspects spirituels dans l'ouvrage de Pujol, donc vous voudrez bien mettre là-dedans du surnaturel. » Ce que Bordarampé a fait, on ne va pas lui reprocher après, mais c'est une critique très juste. Et moi, je l'avais remarqué, mais pas trop quand même. Alors, ensuite, si l'on continue dans la filiation des commandes des sœurs, des servantes de Marie, nous avons évidemment Le Vicaire descend dans la rue, qui est une œuvre directe, qui est très bien faite, et qui a une tonalité historique. Alors on sent évidemment qu'on est là pour mettre en valeur le père fondateur, mais dans le fond, c'est un ouvrage historiographique dans le fond, hagiographique dans la forme et dans l'intention peut-être. Mais l'historiographie est là. Et puis, il y a évidemment l'ouvrage de M. Chiron, sur lequel je ne veux pas m'exprimer pour les raisons que j'ai dites. C'est un bon ouvrage. Mais souvent, on a des recensions à faire avec les collègues pour les revues. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez faite. Je ne vais pas faire la recension de l'ouvrage. Je dirais simplement que M. Chiron, lui aussi, nous dit clairement, dans son introduction, que cette œuvre sur Sestac lui a été demandée par Mgr Hayé, et la mère générale des servantes de Marie. Donc c'est aussi, malgré tout, une œuvre de commande. Mais une œuvre de commande sans danger, puisque vous connaissiez, je pense, un peu les idées de M. Chiron, qui sont des idées catholiques, et qui ne risquaient pas d'aller raconter des salades, passez-moi l'expression. Alors, une historiographie fiable, à condition, comme pour l'Évangile, de dégager le genre littéraire. Il faut absolument lire ces livres, la plume à la main, en voyant quels sont les faits qu'on peut retenir, et qui sont très nombreux, et en même temps dire « ça n'est pas possible ». J'ai fait une petite notice pour un dictionnaire sur Venise. Une amie m'a demandé, par amitié, de faire Saint-Marc, qui est mon patron. Alors j'ai fait un article sur Saint-Marc. Pas la basilique, hein. Je ne suis pas historien de l'art, mais le saint. Et alors on voit très bien que quand on bascule des rares faits que l'on sait dans l'Évangile à l'historiographie, à la géographie de l'Antiquité. Alors je fais la différence, ça m'a beaucoup éclairé aussi pour Sestac, puisque les portraits donnés par Sestac sont aussi flous pratiquement physiques que ceux de Saint-Marc. C'est-à-dire qu'on dit qu'il était de taille moyenne, il vaut mieux regarder les photos. Et pour Saint-Marc, effectivement, on n'a pas la photo. Voilà, c'est là la grosse différence. Et la géographie, évidemment, c'est-à-dire, alors, moi j'ai écrit, hein, qu'on disait qu'il avait peu de cheveux, l'air vif, bon, mais ça c'est les agiographes du 5e siècle. Et là, on ne tombe pas là-dedans parce qu'on est dans le contemporain. Ce sont des témoins qui ont vu et des témoins qui ont parlé. Alors, reste à part de ces quatre ouvrages, pardon, on est fatigué, Gaëtan Bernoville. Alors lui m'a intéressé pour deux raisons. C'est un ouvrage, pas d'histoire. Il fait partie de l'historiographie, écriture de l'histoire. Et j'avais dit dans le résumé, à ne pas confondre avec historiographie, métier, stipendier pour écrire une vie. Exemple, Racine. D'ailleurs, il n'a jamais rien écrit. J'ai cherché, après avoir écrit ça, il avait été nommé historiographe de Louis XIV. Il n'a rien écrit là-dessus. Il a continué à écrire des pièces. Donc, l'historiographie, c'est l'écriture de l'histoire. Alors ça, ces livres relèvent de l'écriture de l'histoire, avec, je crois, un tamis sur lequel il faut passer. Et je dirais que Bernoville est un littérateur. Mais un littérateur où on trouve des choses extraordinaires. Il y a des faits précis dans Bernoville, et j'avais constaté ça dans certains de ses autres ouvrages, qui sont nulle part ailleurs. Et Bernoville... Je vous prie, excusez, alors là, pas faire comme madame, là, hier, je prends de l'eau. Je vous remercie, excusez-moi, je peux me dépêcher quand même, parce que le maire vous attend. Ah. C'est vrai que j'étais un peu tendu pour ça tout à l'heure, j'ai dit le maire tout ça.
Bon. Oui, comme adjoint, il faut qu'il apprenne la passion.
Oui, je disais donc que... Il y a un autre point qui faisait que Bernoville m'intéressait, c'est qu'il a publié toute une collection qui s'appelle « Itinéraire spirituel de la France ». Et dans les grandes figures de ces itinéraires spirituels de la France, où l'on trouve Sainte Thérèse de Lisieux, j'aurais dû prendre la liste, ça ne me revient pas, vous savez, on se dit « je m'en souviendrai », mais je ne m'en souviens pas, il y en a 14 titres. Il y a par exemple un livre sur Mgr Jean Rousseau, qui était vicaire apostolique des Galas, en Éthiopie, qui est un Vendéen, qui a joué un rôle énorme sous le pontificat de Pie XI, qui était la boîte aux lettres de Pie XI avec le négus. Et ça, Bernoville l'avait trouvé. Il n'avait pas vu les archives. Et sur ces stacks, je pense qu'en regardant de près, on trouve des choses précises. Alors, c'est le premier point qui a fait, évidemment, que j'ai voulu mettre Bernoville, historiographie, pas géographie, mais littérature. Et en particulier, que voulez-vous, étant apparenté par alliance à beaucoup de Basques, malgré mon nom, le hasard, le hasard de la vie, c'est comme ça, je peux le dire, ah, que ces Basques aiment leur pays. Ah, alors, Bernoville, si vraiment vous êtes Basque, vous lisez le Sestac de Bernoville, alors tout est merveilleux, le climat... Mais j'ai déjà entendu ça dans mes alliances. Donc, si vous voulez, je peux le dire, hein, je le dis en famille, là. Hein, bon. Et c'est très amusant et je dirais c'est très agréable à lire. Je ne sais pas si les sœurs l'ont lu. Oui. Non, c'est pas bon. Vous trouvez que c'est pas bon. Sœur Isabelle trouve que c'est pas bon. Non, bon. Alors, ça, c'est la première raison. Alors, la deuxième raison, mais ça, vous avez dû le noter. Ça m'a appris quelque chose que moi je ne sais pas, que je n'ai pas entendu dire encore. C'est que c'est dédié à Léon Bérard, qui n'est pas n'importe qui, ministre, député, ambassadeur auprès du Saint-Siège pendant la guerre, avec l'épithète suivante, à Léon Bérard, qui fut un soutien constant de la cause. Donc il y avait des comités qu'il faudrait peut-être trouver, enfin qui ont peut-être déjà été étudiés, qui soutenait la cause de Sestac. Et Léon Bérard, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire que, entre Bernoville et Guérard, c'est la droite catholique classique, les deux, hein, je parle pas des autres, qui soutenait ces figures, ce qui n'est absolument pas étonnant dans les Basses-Pyrénées à l'époque. Hein, c'était vraiment, je crois, une des tendances de l'électorat. Et Bernoville, il était né à Saint-Jean-de-Luz. Hein, et c'était je ne sais pas, Bernoville, je trouve que ça ne fait pas basque, mais alors sur le Pays basque, écoutez, on ne l'arrête pas. Bon. Alors, les étapes de ces ouvrages, la géographie, historiographie, sont étagées, vous l'avez vu, comme une continuité depuis la mort du père Sestac en 1868 jusqu'à sa béatification. Et je pense que ces filles, les sœurs les servantes de Marie et le diocèse de Bayonne n'ont pas lâché la corde. Et cette historiographie est extrêmement intéressante parce qu'elle est cumulative, on apprend toujours un peu plus de choses, on réfléchit et véritablement on apprend sur la figure du père Sestac, il y a des conjonctions. Par exemple, je dirais que l'œuvre, et en particulier le refuge, les Bernardines, occupe la moitié pratiquement de l'ouvrage de Piolle et la moitié de l'ouvrage de Bordarampé. Évidemment, peut-être un peu moins dans l'ouvrage moderne de 1974, on est après Vatican II, mais... Là encore, ça occupe une place importante. Et Bernoville vient voir les sœurs en 1951. Et il est extrêmement frappé par la sérénité de ce que nous visiterons, je crois, cet après-midi. Il me tarde, parce que c'est vrai qu'à force de lire sans imaginer, vous savez, ce qu'on imagine ne correspond jamais à la réalité, hein, c'est clair. Et il est sûr que Bernoville parle le lieu, dit-il, le refuge, il est émerveillé de l'œuvre du refuge, et il parle pour les Bernardines de la cité du silence. Il raconte même des histoires très dures sur les Bernardines qui m'ont un peu surpris, mais je crois que c'est le propre des ordres religieux fermés, de cette moniale qui est avec sa supérieure, qui rencontre une dame, enfin, vous connaissez l'histoire, et la dame parle une heure avec la supérieure et la moniale reste de côté. Et puis, elle s'en va, elle rentre dans la clôture à nouveau où elles avaient reçu cette dame et elle lui dit « Savez-vous qui était cette dame ?» Et la monnière lui dit « Oui, c'était ma mère. »« Oui, bien, j'ai parlé avec elle, vous avez vu. »« Bien, vous pouvez rejoindre... » Moi, je trouve ça un peu dur. Hein. Mais je ne suis pas chargé pontificalement d'approuver les constitutions. Il le cite, comme exemple de rigueur. Alors, en 1950, ça passait très bien. Aujourd'hui, c'est une vocation. Hein. On est obligé de s'incliner devant des vocations comme ça. Le mystère est tel. Alors, je disais donc qu'il y a beaucoup d'analyses du charisme et en même temps, on parle du père. On parle du père et l'historiographie du père Sestac nous livre un portrait de sa personne, dont je dis qu'il est discutable, mais un portrait spirituel. Et évidemment, dans le portrait spirituel du père Sestac, il y a une mise en valeur remarquable de Marie. Alors vous allez me dire, mais vous enfoncez une porte ouverte. Oui et non. Je vois le discours de béatification, Marie, est-ce qu'elle est nommée dans les trois amours de Sestac? Non, il y a l'Église, l'Eucharistie et le pape. Non, le cardinal Amato, il s'est trompé de péninsule, là, quoi. Je dirais donc que on voit, et Bernoville et Bordarampé mettent à Marie vraiment tout un chapitre, et on se rend compte combien le père Sestac a voulu créer cet ordre. Alors je crois que c'est votre quatrième vœu, ou cinquième vœu. Quatrième ? C'est fini ? Il n'y a plus le quatrième vœu ? Oh. C'était si bien pour ma démonstration. Oh non, c'est parce que j'ai trouvé une notule sur les servantes de Marie en Gironde de 1871. J'ai voulu comparer quand même les sources. Alors en 1871, dans le diocèse de Bordeaux, elles avaient deux maisons, une au Lèves et une je ne sais plus où, là, par là, à Saint-Genès-de-Castillon, je crois. Et effectivement, la rédactrice ou le rédacteur de cet ordo diocésain nous dit les servantes de Marie. Alors, beaucoup de bien du père Sestac. Et il a insufflé l'amour de Marie, qui est le quatrième vœu des sœurs. Alors, j'ai cru que ça continuait. Donc, non, vous l'avez remplacé par un vœu au pape, peut-être comme les jésuites. Excusez-moi de plaisanter sur des choses saintes. Donc, si vous voulez, j'étais persuadé, hein, vous voyez, j'avais lu ça. Et alors, c'est là que j'ai vu la seule critique, je vous disais hier, du père Sestac, petite critique, qui rejoint finalement cet air sévère. Parce que le père Sestac a un air sévère. Et est-ce qu'il lui arrivait de rire? Je n'en sais rien. Toujours est-il que le père Sestac, dans la notule sur... On raconte comment les Bernardines avaient... les servantes de Marie avaient acheté, pardon, excusez-moi, le domaine de M. Miqueux. C'est ça qui était... Larieux, pardon. Excusez-moi, j'ai pas marqué le nom. De M. Larieux. Et alors on voit la supérieure générale qui va acheter le truc, mais elle ne donne son avis, dit la notule Vacharde, qu'après avoir eu l'accord du père Sestac, car attention, rien ne se fait sans l'avis du père. Alors j'ai dit, tiens, petit autoritarisme peut-être, sous-jacent dans le... C'était une personnalité très forte, mais ça n'empêche pas qu'il soit bien heureux. Et ce n'est pas une faute majeure. Puis si c'est pour le royaume de Dieu, il a le droit d'être autoritaire. Bon. Alors, je vais passer un petit peu rapidement sur les leçons. Donc, vraiment, cette historiographie montre ce caractère marial, ce caractère ascétique auquel M. Chiron faisait allusion dans l'exposé lui hier. Ce caractère ascétique, le père Noix, qui est l'archiviste des Sulpiciens, dit Sestac... C'est une spiritualité sulpicienne. Marie, viendrait des sulpiciens. Parce que moi, j'ai été confessé pendant des années par des sulpiciens qui me donnaient toujours comme pénitence « Vous direz une prière à la Vierge Marie ». Ça me surprenait, mais là, j'ai eu la preuve par neuf que c'était dans cette spiritualité. Enfin, le père Sestac, c'est un homme qui est d'un ascétisme tel que je vous conseille de reprendre, je ne vous l'ai pas amené, sa journée dans le Bordarampé ou dans le Puyol. C'est étonnant la journée du père Sestac. Il raconte qu'il s'élève à 5 heures du matin et jusqu'au soir, il est tout le temps occupé et Dieu est toujours présent. C'était des intentions, mais c'est vraiment extrêmement impressionnant. Alors j'ai trouvé que là, l'historiographie disait des choses hagiographiques, mais qui étaient justes. Alors bien sûr, il y avait des moments où cette historiographie va un peu loin. Il y a un mot quand même qui est à prononcer, on sent très bien, hein, je vais accélérer, hein, je vais presque terminer, on va voir l'apparition du charisme. En lisant, je vous dis avec la critique nécessaire, il y a un charisme du père Sestac, et à la fin de son ouvrage, l'abbé Puyol livre les lettres des évêques recommandant les servantes de Marie au pape en 1877. C'est très précieux. On voit qu'elles sont représentées dans plusieurs diocèses, y compris ce qui m'a personnellement touché et beaucoup intéressé à Alger, par le biais du cardinal Lavigerie, dont j'ai appris à l'occasion qu'il était le pénitent du père Sestac. La Vigerie se confessait au père Sestac quand il était à Bayonne, et il le dit, je suis très heureux de rendre hommage à mon confesseur. Et le père Etchekopar, supérieur de Bétaram, successeur de Gary Coates, je pense, donne évidemment un hommage à l'œuvre du père Sestac, aux sœurs, où dit-il, il y a un rare esprit de piété. Alors les religieuses, véritablement, ont un peu le portrait qu'a fait l'abbé Fabas tout à l'heure. Dès cette époque, elles sont représentées dans l'Église, elles sont représentées partout. Et ça, c'est un apport, je crois, de l'historiographie, même si elle est un peu hagiographique. Alors, dernier point, puis j'en aurai terminé, vous voyez, j'ai un petit peu accéléré. Une historiographie, cependant, dont on pourrait discuter, en se demandant si c'est pas trop une historiographie ad intra. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une historiographie ad intra? Et cette historiographie peut-elle servir ad extra? C'est-à-dire pour l'Église et le monde. Alors, elle est obligatoirement ad intra, car les évêques de Bayonne et les sœurs, les servantes de Marie, ont compris, avant le Concile, et c'était en l'air, bien sûr, combien le charisme du fondateur est essentiel. Et le charisme du fondateur, il doit être garanti par l'autorité de l'Église. C'est chose faite, et c'est une très bonne chose faite. Mais il est certain que c'est un peu ad intra, parce que d'auteurs extérieurs, on en a peu. Alors on en a un, par exemple, que vous connaissez probablement, parce que vous savez tous sur ces stacks, c'est le docteur Charles Ozanam. Le docteur Charles Ozanam, frère de Frédéric Ozanam, vient faire un voyage dans les Pyrénées. Il appelle ça « Au pays des Landes ». Et il fait une description très précise du refuge dans une revue et qui est ensuite publiée en petit livre. C'est vraiment à lire, parce que là, ça vient vraiment de l'extérieur et puis on est dans les figures sociales. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, les critiques extérieures pour ce père, et j'en aurais vraiment presque fini, ce sont des critiques, on l'a vu tout à l'heure, de presse. Bernoville cite beaucoup le courrier de Vasconi, et parce qu'il les voyait, il se veut historien ici. Et puis dans les livres même de Puyol et de Bordarampé, on voit très bien comment en 1848, Sestac n'était pas populaire. Et on est obligé de dire, si on veut être historien, et rester dans l'historiographie classique, que Napoléon III était très favorable à l'Église. Alors, vous étiez proche de Biarritz, évidemment l'empereur venait, bien sûr, mais l'empereur était gagné à la cause, et je pense que c'était très intéressant de voir comment c'est raconté dans les ouvrages. L'empereur est présenté, il l'a montré tout à l'heure, comme sympathique. Il est sympathique, il est gentil, il fait lever le voile d'une servante de Marie. Il n'en a pas le droit, mon avis. Bon, elle le lève et la supérieure dit « redescendez-le ». Bon, ce sont des petits fioretti qui sont assez amusants. Voilà, alors j'ai terminé pratiquement. Je dirais simplement, ma collègue et amie Josette, décidément, on a des transmissions de pensée, a cité Hippolyte Taine. Eh bien, moi aussi, j'avais prévu de citer Hippolyte Taine, mais pas de la même manière. L'historien positiviste qui, vous savez, parlait pour dire sur un personnage quel est... Alors, il disait, il faut voir la race, traduisez le peuple, hein, aujourd'hui le mot race a évolué. Donc, je le dis, lisez peuple, je me conforme aux lois de la République. Le peuple... Le milieu, le moment. Et je crois que ces livres de l'historiographie nous donnent le peuple, le milieu, le moment, en particulier l'enfance basque de ces stacks, ces ennuis de confession. Alors Chiron dit que le curé là, qui lui refuse la confession n'était pas janséniste. Je regrette qu'il n'ait pas été là, parce qu'il y aurait eu un débat. Là, je pense qu'il était vraiment janséniste. Mais enfin bon, ça aurait été un débat intellectuel intéressant. C'est vrai, il le dit, mais avec beaucoup de talent, hein, mais je ne suis pas d'accord. Bon. Alors, Taine parle de cela, et puis aussi, vous le savez probablement, il dit, pour rendre compte d'un charisme, pour rendre compte d'un homme, il faut savoir quelle est son talent dominant, sa qualité dominante. Si vous savez la qualité dominante d'un homme, eh bien, vous saurez ce qu'est cet homme. Alors, il avait commencé avec Tite-Live en disant « c'était un orateur, qualité dominante, c'était un Romain de telle époque, et il fait la vie de Tite-Live après. Peut-on faire autant pour Sestac ? Quelle est la qualité dominante de Sestac ? Alors, le cardinal Amato a dit ses nombreuses œuvres jaillissaient de sa foi. Alors, effectivement, est-ce que le charisme peut être répandu ? Mais à ce niveau-là, pas tellement de Sestac, c'est la foi. La foi qui, à partir de là, amène les œuvres. C'est une foi amenant les œuvres et amenant, effectivement, le regard de Jésus, j'ai pitié de cette foule. Et donc, si vous voulez, on peut avancer cette hypothèse. Mais alors, à ce moment-là, je dirais pour conclure complètement que mon exposé s'arrête. Parce que c'est un charisme, celui-là, une qualité dominante dont l'historien ne peut absolument pas rendre compte. On ne peut absolument pas rendre compte. Là, on tomberait dans la géographie, dans le psychologisme, et je dirais que le domaine de la foi échappe complètement à l'analyse historique, qui est obligée d'en tenir compte, mais qui ne peut pas en décrire vraiment les contours. Je vous remercie.
Réflexion sur l'historiographie du père Sestac. Vous venez de suivre l'intervention de Marc Agostino, professeur émérite de l'Université Bordeaux-Montaigne. Société, religion et charité au XIXe siècle. Colloque international organisé à l'occasion de la béatification de l'abbé Louis-Édouard Sestac 1801-1868 par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et la ville d'Anglette. 15, 16 et 17 octobre 2015 à Notre-Dame du Refuge, Anglette.